Kindia 2015, c'est plus qu'un film. C'est une aventure télévisuelle hors norme pour laquelle nous avons choisi de prendre le temps de mieux comprendre, pour mieux aider. Pendant 4 ans, nos équipes vont s'installer en Guinée-Conakry, un pays francophone d'Afrique de l'Ouest, parmi les plus pauvres du monde, pour accompagner le travail d'hommes et de femmes qui s'engagent sur le terrain. Jusqu'en 2015, vous allez vivre au rythme de la ville de Kindia et de sa région. Les habitants y ont de graves problèmes de pollution, d'accès à l'eau potable, à l'éducation, à la santé. Kindia, une ville de 250 000 habitants qui concentre en un même endroit tous les grands enjeux du développement. Alors, nous vous proposons de relever un défi. Améliorer d'ici 2015 les conditions de vie des populations. Aider à la construction d'écoles, aménager des sources, soigner les femmes et les enfants, protéger l'environnement. Année après année, vous allez pouvoir participer directement et en temps réel au projet et devenir, si vous le souhaitez, des acteurs du développement. Pour tenir ce pari, les projets sont financés par les ONG partenaires et le fonds de dotation Kindia+. À tout moment, vous pouvez aider par vos suggestions, vos idées et contribuer par vos dons au fonds Kindia+. 4 ans, 4 films pour suivre les projets, rendre compte des réussites et des obstacles rencontrés. Ensemble, nous avons jusqu'en 2015 pour réussir. On pourrait croire à une malédiction sur Yamponi, ce vaste bout de mangrove sur la côte de Guinée. Une zone humide dévastée par le feu et la défriche. Autrefois ici, le climat était doux. Les poissons frayaient sous les palétuviers, ces arbres au pied dans l'eau. Mais à Yamponi, pour survivre, le paysan guinéen est obligé de détruire ce qui le fait vivre. Raser la mangrove pour récolter l'or blanc de la côte africaine, le sel. Chaque année, à la saison sèche, ils arrivent sur la zone, éparpillés par petits groupes, loin de tout, dans des campements de fortune. Sur Yamponi, il serait plus de 5000 en comptant les familles, la plus grande concentration en Afrique. 5000 forçats volontaires venus un mois ou deux pour faire bouillir la saumure, de l'eau très concentrée en sel sur de grands bacs en fer blanc.
C'est un travail très dur. Travailler avec le soleil et avec le feu, c'est très dur. Mais comme il n'y a pas d'un autre travail, avant que tu vas voler quelqu'un, ou bien tu sors pour faire le brigandage, tu travailles ça pour avoir la nourriture de ta famille.
Mohamed Silla a 54 ans. Il est guinéen, mais ici, tout le monde l'appelle sénégalais parce qu'il a longtemps vécu à Dakar. S'il veut du cash, de quoi payer les dépenses de la famille, alors tous les ans, au mois de mars, Sénégalais et les siens doivent revenir ici, souffrir quelques semaines à Yamponi. Gratter le sol, charger en sel par les grandes marées, laver cette terre à l'eau de mer dans les tankés, ses grands filtres en feuilles de palmier pour récupérer la saumure.
J'ai 9 enfants vivants. Une seule fille, hein. Tout le reste, c'est les garçons.
Ça coûte cher?
Oui. Alors, si tu n'es pas travaillé, ton fils ne peut pas étudier. Alors, il faut que nous, on souffre. Mais on ne veut pas que notre enfant souffre. C'est pour cela qu'on est dans ça.
L'étape suivante est la plus pénible, la plus dangereuse aussi. Quand il faut faire bouillir ce sel liquide. La saumure brûlée dégage du chlorure d'hydrogène, un gaz toxique qui pique les yeux, soulève les poumons, empoisonne l'atmosphère. En Guinée, le cultivateur de sel a une espérance de vie d'une 40aine d'années. 10 ans de moins que celle du paysan ordinaire. À 4500 km de là, des Français ont décidé de refuser cette fatalité et de se battre pour leurs collègues africains. L'initiateur de cette solidarité avec la Guinée, c'est Alain Courtel. Il est paludier et récolte son sel dans le paysage idyllique des marais salants de Guérande, en Bretagne, à 1 heure de route de Nantes.
J'ai toujours autant de plaisir. Et malgré que ce soit des gestes répétitifs et tout, j'ai l'impression que c'est toujours la première fois. Puis là, en l'occurrence, c'est pratiquement la première récolte de la saison, donc c'est un petit peu un moment magique où on est... je sais pas, j'ai l'impression d'être vivant ici, toujours un peu à l'écoute... de la nature, du nuage qui va venir. Donc ça met les sens en éveil. Et bon, je trouve que c'est un métier fabuleux. Et puis aussi le sentiment de produire un produit de qualité. Donc voilà, ça donne du sens à une vie.
Alain Courtel a fondé l'association Universel, une ONG pour aider les paysans du sel partout dans le monde, et notamment en Guinée.
Pourquoi on s'investit comme ça? Je sais pas, je pense que c'est d'une part parce que c'est quand même la grosse précarité, c'est quand même des gens qui sont dans des situations économiques très difficiles. Donc voilà, on a envie d'essayer de voir si on peut pas donner un coup de main, quoi, d'améliorer ces conditions de vie et de travail.
À Yamponi, en Guinée, les hommes sont menacés, la nature aussi. Sénégalais doit alimenter son foyer 24 heures sur 24. Un feu qui s'éteint, ce sont des heures de sel en moins, la hantise du producteur.
Il faut du bois en permanence?
Il n'y a pas de bois, le bois est fini. Tout est récolté. Ils ont coupé tout. Maintenant, là où on trouve le bois, c'est loin. Là-bas, ça dépasse 1 kilomètre. Peut-être 2 kilomètres, hein.
Pour obtenir 1 kg de sel, il faut couper et brûler 3 kg de bois. Chaque année en Guinée, 50 000 tonnes de sel sortent de la mangrove, soit 150 000 tonnes de bois qui partent en fumée. Dans cet environnement très fragile, la coupe dépasse aujourd'hui les capacités du milieu.
Là-bas, il n'y a plus rien. Tout a été coupé il y a 2 ou 3 ans. Comme il n'y a plus de bois près du campement, on vient jusqu'ici. Mais c'est du bois vert, trop jeune. En principe, il faudrait couper des arbres plus grands, mais il n'y a plus rien.
Vous savez que c'est la destruction de la nature, la coupe abusive de bois?
Oui, c'est ça, oui.
Mais pourquoi vous le faites alors?
Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. T'en connais un, toi?
Là, il y a du bois encore, mais pour combien de temps? Je veux dire, c'est vrai que tout le monde en est conscient, même eux. Ils savent que bon, ils vont encore piocher dans la réserve de mangrove, mais leurs enfants n'auront plus rien à brûler, quoi. La mangrove a d'autres fonctions que de faire chauffer de la saumure. C'est le poumon de la planète, hein.
ces forêts tropicales, c'est extrêmement riche pour le milieu, pour la reproduction des poissons, pour plein de choses. Donc c'est vraiment un combat qu'il faut continuer et de façon à protéger le patrimoine de l'humanité.
Les paludiers de Guérande ont trouvé une solution pour produire du sel en Afrique, sans détruire la mangrove, ni ruiner la santé des paysans. Une idée a priori toute simple, des bâches plastiques. L'action du soleil et du vent plutôt que la dévastation de la machette et du feu. Un système mis au point il y a près de 25 ans lors d'un voyage au Bénin, un autre pays d'Afrique de l'Ouest.
Je me rappelle, quand on était sur la lagune béninoise, on galérait à vouloir faire des marais salants qui ne marchaient pas parce qu'il y avait trop de... le sol n'était pas imperméable, etc. Donc il y avait des crabes et tout. C'était compliqué. Donc c'est là qu'on a eu l'idée d'amener les premiers cristallisoires en plastique pour démontrer aux productrices de sel du Bénin qu'on pouvait faire du sel avec le soleil. Pour elles, c'était une vue de l'esprit, quoi. Et on a posé cette bâche, je me rappelle, le matin, dans une plaine, dans le village de Lanhou, dans la plaine de Lanhou, là. Et étalé le matin, sel l'après-midi. Et donc, toutes les productrices, des maîtresses femmes sont pointées autour du cristallisoire. Du sel, j'ai.
Sel.
Sel.
C'est bon.
C'est bon. Là, c'est le soleil qui fait cadeau, là. C'est lui, là. Et tu vois, ça marche.
On a récolté le premier sel solaire du Bénin. Hein. Et donc, elle... se sont tournés vers moi pour m'applaudir. Donc moi, j'étais quand même un peu gêné, quoi. J'étais... Et je dis, bah non, c'est pas moi qu'il faut applaudir, c'est le soleil. Et je me rappelle, on était tous là, symboliquement, en train d'applaudir le soleil. C'est des moments de extraordinaires, quoi.
On va remercier un peu le ciel. Le soleil.
Le soleil. Merci.
C'est super gratifiant de pouvoir aider des gens et d'en retirer des satisfactions personnelles sur à quoi ça sert la vie. On passe pas la vie comme ça, simplement à consommer. Non, je pense qu'il y a plus que ça. Quoi. Il faut s'intéresser à ce qu'on peut faire pour améliorer. Voilà, je crois que... Et puis, en retour, on a ces sourires, ces regards de complicité. Donc, tout ça est une nourriture, et c'est un moteur. Donc, voilà, on en ressort grandi. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Depuis les années où je travaille en Afrique, ça m'a bonifié, ça a donné du sens à ma vie.
En Guinée, le grand défi, c'est l'éducation. 65% des Guinéens ne savent ni lire ni écrire. Dans les campagnes, la situation est dramatique. 9 ruraux sur 10 sont illettrés, les pires chiffres d'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi l'UNICEF va intervenir en brousse. À 3 heures de piste de Kindia, la préfecture de Télimélé, une zone très enclavée où l'éducation est en déshérence.
Tendez les bras.
Fixe. Repos. Attention. Entrez.
L'école du petit village de Mabé est typique des établissements de la campagne guinéenne. Patriotique et autoritaire. Un peu comme la France rurale des années 50. Ici, les promesses de l'indépendance n'ont pas vraiment été tenues. Les moyens sont dérisoires, le bâtiment délabré. Tout a été construit par les villageois eux-mêmes.
Elle a un sac. Kayatou.
Kayatou.
A un sac.
A un sac.
Kayatou. Ça s'arrête ici. Avec le mot Kayatou, il y a combien de A? Regarde maintenant les A. Le nombre de A. Il y a deux A. Hey, suis. Regarde, compte-moi les A. Hein? Un, deux.
Debout.
Zémé.
Assis.
Zéma,
bien. Toi.
L'école de Mabé compte 124 élèves pour 3 classes. C'est à peine la moitié des enfants du village. Les autres traînent dehors ou sont partis travailler au champ avec leurs parents. Une situation intolérable aux yeux de Julien Arnès, un franco-britannique de 46 ans, le représentant de l'UNICEF en Guinée-Conakry.
Les défis de l'éducation, c'est un peu dans les grandes villes, mais en majorité, c'est dans des villages comme celui-ci, où il n'y a pas d'enfants qui ont terminé l'école depuis des années. Et il n'y a presque pas de filles qui sont à l'école. Donc si on doit changer ça, c'est ici.
Le projet de l'UNICEF, construire des écoles dignes de ce nom. Dans la préfecture de Télimélé, il y a urgence. Aujourd'hui, seulement 7% des filles achèvent l'école primaire. Ce sont les pires chiffres du pays, 4 fois moins que la moyenne nationale. C'est le cas de la petite Aïssa Tou, 7 ans. Elle aurait bien aimé rejoindre ses camarades en CP cette année, mais elle a dû rester sur le pas de la porte de l'école. Aujourd'hui, comme tous les jours, Aïssa Tou reste auprès de sa maman, Madame Barry, qui n'envoie aucun de ses enfants en classe.
Kadiatou, l'aînée, c'est elle qui m'aide pour la fabrication d'huile de palme. Toute seule, je ne pourrai jamais y arriver. Elle vient aussi m'aider aux travaux des champs et elle m'accompagne au marché pour aller vendre nos produits. Et pendant ce temps-là, Binta, elle peut rester à la maison et s'occuper des plus petits comme Aïssa Tou. Je regrette beaucoup qu'elle n'aille pas à l'école. Cela aurait été bon pour nous tous. Mais moi, je ne peux pas assumer les dépenses d'une scolarité. Le matériel, les uniformes et tout ça. J'arrive à peine à nourrir et à habiller ma famille. Et le peu que nous gagnons, c'est uniquement parce que mes grandes filles m'aident.
Le destin d'Aïssa Tou Barry est déjà écrit. Elle fera comme ses grandes sœurs, une enfance, puis une adolescence consacrée au travail. L'aînée des filles Barry, 15 ans, n'a jamais été en cours de sa vie. La cadette, 13 ans, a arrêté après le CP. Aujourd'hui, elles sont de corvée de lessive. L'école, pour elles, n'est qu'un immense regret.
Quand on me parle en français, je ne peux pas répondre. Je ne comprends pas parce que je ne l'ai pas appris. Quand on me demande un service dans cette langue, je ne peux pas le rendre. Il y a beaucoup de choses qui nous font regretter de ne pas avoir été à l'école. Cela fait une grande différence entre nous et celle de nos copines qui fréquentent l'école. Nous, nous sommes complexés. Elles ont des parents qui ont les moyens et nous, nos parents n'en ont pas.
La journée est loin d'être finie pour les filles Barry. Après le linge, c'est la corvée d'eau pour la maison. Aujourd'hui, les deux sœurs vont aider leur maman à préparer de l'huile de palme qu'elle pourra vendre au marché en fin de semaine. Du petit commerce, un peu d'agriculture, pour un revenu très précaire.
Il y a un choix par chaque famille qui est, est-ce que on demande à nos enfants de travailler avec nous dans les champs pour qu'on puisse se nourrir, ou est-ce qu'on va investir dans le futur ? ils vont probablement décider de retirer leurs enfants de l'école ou ils vont même pas les envoyer. Donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect qui est plutôt social, c'est-à-dire que les filles se marient ou vont donner naissance à des enfants à des âges assez jeunes, 15-16 ans. Et ça, bien sûr, ça peut couper l'éducation.
Le seul espoir d'un avenir différent pour la petite Aïssatou Barry, c'est le projet de l'UNICEF. Et pour couvrir les besoins de la zone de Télimélé, le défi est immense. Parvenir à scolariser 80% des enfants de la région. Départ vers un autre village, encore plus loin, en brousse. Bapé, petit hameau d'éleveurs et d'agriculteurs peuls, où l'on cultive un peu de riz et de manioc. L'école, une bâtisse de tôle et de terre séchée. Elle est censée couvrir les besoins des 5 autres villages de la vallée. Ici aussi, les enfants sont nombreux à s'entasser en cours. Et les conditions d'apprentissage d'une médiocrité extrême. Dans la classe de CM1-CM2 de M. Yata, le directeur de l'école, le cours de géométrie, c'est système D.
Les cercles, par exemple, voici, on prend une feuille, on plie. On prend les bics, on met un petit trou au milieu. Vous voyez? Et on vient de l'autre côté un peu, on met le deuxième trou. C'est compris? Après, on met dans les cahiers. On trace.
À côté, chez le CP de Madame Diallo, en poste depuis un an, ce n'est pas mieux. Un livre pour 10 élèves, des enfants de 6 à 12 ans dans la même classe. Pas facile d'avoir des résultats dans ces conditions.
Les premières compositions sont terminées.
Les premières compositions sont terminées.
Aminata.
Aminata.
Commence.
Commence.
Nous avons vu.
Nous avons vu.
Un grand défilé.
Un grand défilé.
Le 2 octobre.
Le 2 octobre.
Cela fait plus de 10 ans que l'école de Bapé n'a pas envoyé d'élèves au collège. Aucun n'a réussi l'examen d'entrée.
Emmener des élèves jusqu'au collège, ça va être difficile, car les enfants n'ont pas de livres pour travailler. Moi, pour qu'ils apprennent, je fais du par cœur, des chansons, car ils n'ont aucun document avec lesquels ils pourraient réviser. Et à la maison, personne ne peut les aider, car leurs parents sont analphabètes.
Lecture.
Bilgisa a 9 ans. Elle est douée, elle travaille dur. Pourtant, cela fait 3 ans qu'elle redouble son CP. Bilgisa n'y est pour rien. Cela fait des années que le village attend un maître d'école pour assurer le CE1 et le CE2. Mais rien ne vient, pas d'instituteur. Alors, faute de mieux, Bilgisa reste en cours préparatoire. Une situation décourageante alors que sa mère fait tous les sacrifices pour lui payer l'école. L'investissement d'une famille très pauvre, réduit à néant ou presque.
Moi-même, je regrette beaucoup de ne pas être allée à l'école. Quand je reçois du courrier confidentiel de la part de proches, je suis obligée de demander à quelqu'un du village de me faire la lecture. C'est très embarrassant, car je suis obligée de partager des secrets que j'aurais voulu garder pour moi. Mais c'est cela l'ignorance. C'est pour éviter le même destin à ma fille que je veux qu'elle étudie.
Cette absence de professeur qui bloque son parcours scolaire, ça vous inquiète ?
Bien sûr que cela m'inquiète. Si cela continue, elle va se décourager. Je sais qu'elle se pose déjà des questions pour la suite de ses études.
Bilgisa, toi, ça t'énerve de devoir rétrograder comme ça, faute de professeur ?
Moi, je sais que j'ai le niveau pour aller de l'avant. Alors cette interruption, ça m'exaspère.
Comme l'État n'envoie toujours pas d'instituteur pour le cours élémentaire, les villageois ont essayé d'en recruter un par leurs propres moyens. Faute de place dans l'école, ils ont même construit une classe un peu plus haut dans le village. C'est Monsieur Yata, le directeur de l'école, qui nous montre le hangar, la cahute, qui devait abriter le nouveau cours. Pas facile d'attirer un prof dans des conditions aussi précaires.
Voici les choses là où on a fait pour les bancs comme pour les élèves. Sur lesquels, s'ils viennent, ils peuvent s'asseoir comme ça, là. Mettre leur cahier ici, ou bien l'ardoise sur l'écluse. Après, on regarde et on écrit. C'est comme ça.
On peut vraiment enseigner dans ces conditions?
C'est pas tellement facile, mais on est contraint de le faire avant qu'on ne gagne le prix d'un banc.
Et ici,
et à chaque fois, quand la pluie tombe, les jours que la pluie tombe, on ne peut pas, puisque ça coule.
Le prof supplémentaire n'est jamais venu. De toute façon, le village n'aurait pas pu le payer longtemps. La récolte de riz a été trop mauvaise cette année.
Pour encourager des enseignants à s'implanter ici, c'est pas très facile. Parce que bon, eux, ils vont arriver, ils vont dire, bon, il n'y a pas grand-chose ici. Si eux, ils ont des enfants, ou s'ils veulent avoir accès à la santé, ou s'ils veulent que leurs enfants vont au collège, etc., c'est dur pour eux.
Prof en milieu rural, ça n'a rien d'une sinécure. Partager la vie rustique de la brousse en décourage plus d'un. Afin de réussir son projet, l'UNICEF va donc travailler avec l'État guinéen. Essayer de maintenir ou d'attirer des enseignants compétents et motivés grâce à la promesse de nouvelles infrastructures et de meilleures conditions de travail. Un pari difficile pour garantir enfin aux enfants de la région le droit à une scolarité normale. Kindia. 250 000 habitants, la deuxième ville de Guinée. Une démographie galopante, 15 000 nouveaux arrivants chaque année, issus de l'exode rural. Mais l'équipement urbain ne suit pas, Kindia n'arrive plus à faire face. Depuis l'arrivée du plastique, dans les années 80, l'Afrique connaît une pollution sans précédent. Le service public de ramassage est défaillant. Kindia croule sous ses déchets. La ville s'empoisonne. Les autorités locales sont submergées par le phénomène. Le docteur Mamadou Dramé est le maire de Kindia depuis 1995. Cet ancien pharmacien sait qu'il va falloir trouver des solutions pour assainir la ville. Mais par où commencer?
Ce n'est pas le seul dépotoir ici. Il y a dans la ville des trucs comme ça, de moindre importance parfois, mais des dépotoirs quand même, sauvages et qui ne sont pas traités.
Ça a quelles conséquences d'avoir des dépotoirs sauvages comme ça un peu partout en ville, sur la ville qu'il y a?
C'est le problème de maladies infectieuses quand même, la première chose. Ça, les trucs, tout ce qui est truc maladies infectieuses, le choléra, les trucs, les dysenteries, les maladies... Tout ce qui est vers intestinal. Et... Le fait que ces ordures soient là, il y a des odeurs qui émanent qui font des problèmes respiratoires. On a beau dire le problème de l'assainissement, c'est un problème d'abord comportemental, c'est vrai, mais aussi il y a un problème de moyens. Il faut l'assainissement, le traitement des ordures est très cher.
Très cher.
C'est très cher.
La commune de Kindia ne peut pas faire face aux besoins. Un seul camion benne en état de marche et 5 éboueurs pour toute la ville et ses 250 000 habitants. Alors le maire s'est tourné vers Coopération Atlantique Guinée 44, une ONG nantaise implantée depuis 20 ans dans la région et spécialisée dans le développement local. Grégoire Gailly, un Français de 35 ans, coordonne les actions sur le terrain.
Guinée 44, c'est une association qui intervient en Guinée depuis maintenant plus de 20 ans et qui a été créée par le département 44, la Loire Atlantique. C'est une association de solidarité internationale. Elle vise à faire travailler ensemble des acteurs français, des acteurs guinéens, dans des projets où on essaye d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est les termes un peu classiques, mais la réalité, la finalité, c'est bien ça. L'objectif, c'est vraiment de travailler sur le développement local, le développement des activités localement qui permettent d'améliorer les conditions de vie des populations.
Pour régler le problème des déchets, rien ne se fera sans l'adhésion des populations. La priorité de l'ONG nantaise, sensibiliser les habitants pour changer les comportements. Diarra Idialo est la sociologue de Guinée 44. Elle va sur le terrain, au contact des familles, au cœur des quartiers.
Donc je disais par là, c'est important d'y aller parce qu'il y a juste le bas-fond derrière. Et comme il y a la rivière qui est juste à côté, serait important de demander aux ménages qui sont par là comment ils se débarrassent de leurs déchets. Pour les déchets, ça a un peu traîné. Parce que tout simplement, chez nous, tu sais, les gens, il y a des choses, ils se disent, ben, c'est l'affaire du gouvernement. Moi, j'en ai rien à faire, donc c'est... La mairie est là pour ça, le gouverneur il est là pour ça, pour que la ville soit propre. Donc personne ne se dit, moi aussi je dois participer. Et c'est ça qu'il faut changer chez nous. Quoi. Donc c'est déjà faire beaucoup d'animation aussi, aller de porte à porte, discuter avec les gens. C'est vraiment, quand tu le fais, c'est un travail très lent. Donc il faut vraiment aller à leur rythme, mais surtout ne pas lâcher. Parce que moi je me dis, chaque fois que dès que tu lâches, tu reviens à un niveau beaucoup plus bas que le niveau que tu avais avant.
Pour toucher l'ensemble des habitants de Kindia, le porte-à-porte n'est pas suffisant. Il faut communiquer massivement. Mais ici, pas de télévision locale, l'internet trop cher ou défaillant et une seule radio rurale. Alors Coopération Atlantique Guinée 44 subventionne des spectacles de rue pour sensibiliser une population à 60% analphabète.
Quand on a des troupes de théâtre qui font des spectacles sur l'eau et l'assainissement et qu'on voit que le message passe grâce à ça, ou les jeux publics à la radio, on sent quand même qu'il y a une prise de conscience, on se rend bien compte qu'il y a une amélioration. Donc là-dessus, on est content.
J'ai compris. C'est interdit. Hein? C'est interdit. Hein?
S'il vous plaît, il ne faut pas faire ça maintenant.
Je ne le fais pas.
Tu n'es pas le cap, n'acceptez pas ça.
Voilà.
Vous avez fait toi aussi,
Grégoire, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans la coopération et le développement?
Moi, j'ai eu la chance. Moi, je suis né dans la banlieue parisienne, la banlieue plutôt aisée. Et je suis issu d'une famille qui n'a pas de problème d'argent, globalement, famille nombreuse, éducation très judéo-chrétienne, avec le souci de l'autre et d'aider son prochain. Et on a eu la chance, en famille, de partir à l'expatriation pendant 3 ans au Nigeria. Donc ça, forcément, ça m'a évidemment marqué. Et finalement, j'ai même orienté mes études vers ça. J'étais ingénieur agronome, et je me suis spécialisé en agronomie tropicale. Et je me suis retrouvé dans cette formation qui, en plus, prenait comme exemple la plupart du temps des projets de développement en Afrique et qui, du coup, montrait qu'en 50 ans de coopération, c'est vrai que les résultats n'étaient pas à la hauteur, mais il ne fallait pas non plus noircir le tableau, il y a quand même des résultats. On aide des personnes, soit de la société civile, soit des collectivités, soit de l'État, à faire bien leur travail.
À Kindia, le service public de ramassage des ordures est déficient jusqu'à l'absurde. À la périphérie de la ville, le maire tient à nous montrer la décharge municipale. L'endroit est difficilement accessible. Un grand trou, totalement vide. La ville croule sous les déchets, mais la décharge publique reste vierge. Aucun camion poubelle ne vient déposer ses ordures ici.
Le trou se prolonge jusqu'au niveau là-bas, là où il y a la maison en briques, là.
Tutu, c'est-à-dire qu'il y a de l'espace encore pour longtemps. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué. Voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème qui est qu'en fait, les déchets sont vendus, il y a un trafic de déchets sur toute la ville.
Il y a un trafic de déchets sur toute la ville et qui est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tri. C'est du tout qui est vendu. Tout. Vous retrouverez aujourd'hui chez les maraîchers des piles dans les champs.
En fait, au lieu d'aller à la décharge, les éboueurs revendent les déchets non triés de la ville aux paysans qui les utilisent comme fertilisants pour cultiver les fruits et les légumes. C'est moins cher que du fumier animal, mais ça coûte tout de même l'équivalent de 8 euros la benne. Ici, les ordures, c'est l'engrais du pauvre. Pastor Yassila est le porte-parole des cultivateurs de Kindia.
C'est de la merde. Mais on s'est débrouillé avec. Parce que quand tu mets, ça donne, ça pousse. Si vous voyez la laitue, tu vois, c'est laitue, ça pousse. Quand tu vois ces tomates, ça pousse normalement.
Ça pousse, c'est sûr. Mais pour utiliser les déchets comme compost, les paysannes sont obligées de faire un premier tri grossier elles-mêmes. Le tout à main nue, sans aucune protection.
Quand elles font ça, qu'est-ce qu'elles craignent comme blessure ou comme...
En faisant ce travail, tu peux te couper avec des lames de rasoir. Et il y a même des seringues usagées.
Il y a beaucoup d'objets dangereux. Si tu te piques avec ça, tu risques plein de maladies, comme le tétanos.
Pour éviter de prendre autant de risques et moins polluer leurs terres, les maraîchers sont prêts à payer le chargement de déchets deux fois plus cher, à condition d'obtenir des ordures organiques complètement triées.
On a peur. Aujourd'hui, la population, la pollution n'est pas encore dense. Mais comme on continue à polluer, si on ne trouve pas de solution par rapport à ça, la génération future aura des problèmes énormes.
Le trafic est connu des autorités qui ont trop longtemps laissé faire. Mais le maire de Kindia a son idée pour essayer d'y mettre un terme.
Aujourd'hui, c'est tout un truc, même mélange de plastique, de métal, de piles et tout ce qui est nocif qui est là. Mais malgré tout cela, il y a des gens qui prennent. Donc, ce qui veut dire que le marché existe. Mais aujourd'hui, il faut organiser le marché. Il faut l'organiser en amont. Il faut expliquer à la population qu'il y a aujourd'hui là une activité génératrice de revenus et faire en sorte que les gens s'intéressent à ça sur les plateformes et en ville pour faire le tri. Notre travail, c'est transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux.
Pour appuyer l'intuition du maire, Coopération Atlantique Guinée 44 propose d'impliquer la jeunesse de Kindia. Le principe est simple. Les jeunes vont collecter les déchets directement chez l'habitant et les trient pour les revendre aux maraîchers. C'est un service payant qui doit permettre aux jeunes des quartiers de gagner de l'argent, aux maraîchers d'obtenir un compost plus propre et aux habitants de ne plus polluer leur ville.
Qu'est-ce que vous avez ramassé comme déchets là?
Il y a les ordures ménagères,
ouais,
qu'on a ramassées ici. Ensuite, dans le second sac, c'est les plastiques qui se trouvent dedans.
D'accord. Ouais. Donc ça, c'est des gens qui font le tri chez eux?
C'est les femmes là qui trient. On les a appris à faire ça pour faciliter la tâche.
On a fait en deux catégories.
Ok, montrez-moi. Bon.
Ici, il y a des plastiques.
Et dans l'autre, c'est les déchets
Les déchets ménagères, il y en a ici.
D'accord. Bon. Vous faisiez comment avant pour les ordures?
Bon, avant, nous, on amenait les ordures dans les bas-fonds pour aller jeter là-bas.
Et vous payez?
Bon, nous sommes abonnés ici.
D'accord.
L'abonnement, on est abonnés ici.
Et vous êtes prêt à payer, c'est combien?
Bon, la somme quand même,
7000 francs.
7000 francs.
70 centimes d'euros par mois. Après la collecte, le groupe de jeunes rejoint le centre de tri. Une plateforme en béton financée par la coopération avec l'agglomération nantaise. Une expérience pilotée par Guinée 44 pour la ville de Kindia. Ici, les plastiques, les métaux et les autres détritus sont séparés pour recycler ce qui peut l'être et récupérer les déchets organiques pour les maraîchers. Grégoire est venu voir sur place l'avancée du projet.
C'est pas une plateforme pour un quartier?
Non, c'est pour l'ensemble des
pour
quartiers.
Pour tous les quartiers autour.
Voilà.
Et y a tous les anciens dépotoirs sauvages
qui,
normalement,
qui
doivent
vont être
disparaître
pour ici.
Être amenés ici. Voilà. Si on arrive à avoir des dispositifs qui fonctionnent de manière économique, comme dans d'autres pays, au Mali, au Sénégal, ça marche. Ici, on pense que c'est possible. On sait que ça ne se fera pas du jour au lendemain, parce qu'il faut d'abord que le service s'améliore. Donc tout le travail, c'est d'essayer d'accompagner les dynamiques, en essayant de repérer les gens qui sont vraiment motivés. Et à partir de là, si on arrive à avoir un exemple qui marche, puis un deuxième, puis un troisième, on peut nettoyer Kindia.
Le pari est en passe d'être réussi. Pastoria, le chef des maraîchers, est déjà sur place pour vérifier la qualité du compost et négocier les prix avec les jeunes.
Ça, il faut un petit effort encore, parce que je vois encore certains plastiques, tu vois. Tu vois le petit ferraille là, qu'il faut enlever parce que ça blesse. Tu vois les pots de tomates, la boîte de tomates vide là. Tu vois la vieille pile là.
Pastoria, vous êtes prêt à payer combien si c'est vraiment trié?
Vous savez, on avait dit au départ que nous sommes prêts à payer le double de prix. Mm-hmm. Parce que habituellement, on payait 80 000, 85 000
le chargement.
Les ordures non triées, s'ils débarrassent ces ordures des plastiques, des ferrailles, des piles, seringues, etc., on est prêt à payer le double prix. Donc 150, 160, jusqu'à 170.
Si ce centre de tri pilote parvient à fonctionner, son principe pourrait être étendu à toute la ville et résoudre en partie le problème des déchets de Kindia, l'espoir d'une vie plus saine pour la population.
Changer le monde, c'est pas facile. C'est une belle ambition. Et je pense qu'en effet, comme disent les altermondialistes, d'autres mondes sont possibles. Et je pense que dans notre travail, on y contribue. On montre qu'il y a des alternatives. Le modèle unique, les dogmes, ça marche pas. Les expériences locales, les alternatives, elles existent. Et il en faut de plus en plus pour montrer qu'on peut aller vers un monde un peu plus social, un peu plus humain, tout en étant économiquement viable.
Pour contribuer à assainir la ville à l'échéance de 2015, Coopération Atlantique Guinée 44 propose dès l'année prochaine l'acquisition d'un tracteur et de 10 remorques pour ramasser les ordures, la mise en place de 3 centres de tri sélectifs, la réalisation d'études en vue d'aménager la décharge publique de Kindia. Retour à Yamponi, le site de mangroves dévasté sur la côte guinéenne. La récolte de sel bat son plein. Sénégalais, le paysan poursuit son travail avec le bois, le feu et ses panis, ses bacs en fer blanc. Aujourd'hui, à Yamponi, ce n'est pas vraiment un jour comme les autres. Pour la première fois, les producteurs d'ici vont découvrir l'autre manière de faire du sel.
Nous sommes venus vous apprendre comment utiliser les bâches.
pour produire votre sel en quantité, sans couper du bois ni faire de la cuisson.
Toupo et Ali sont des ingénieurs agronomes guinéens. Ils connaissent parfaitement la culture et le savoir-faire des paysans locaux. Ils travaillent pour l'ADAM, l'organisation sœur d'Universel, l'ONG des paludiers de Guérande. L'art de la bâche exige un terrain bien exposé à la chaleur et au vent. Il faut nettoyer les aspérités, délimiter une aire de travail et aplanir la surface pour un maximum de rendement. Pour convertir au sel solaire, pas besoin d'outils. D'ailleurs ici, personne n'en possède. Ensuite, il suffit de verser la saumure, le soleil et le vent feront le reste.
Là, tu ne transportes pas le bois, tu ne fais pas le corbeau de bois, tu ne fais que transporter seulement la terre salée.
La nuit, tu dors bien.
La nuit, tu dors bien, tu te reposes, le matin, tu viens, tu étales tes bâches, tu les doures, tu fais le dourage, et puis à 12h ou bien 13h, tu viens, tu brasses, tu fais le brassage, et c'est fini.
Il n'y a pas d'avenir dans le sel avec le feu, c'est une aberration. Et donc, voilà, notre mission, c'est de faire en sorte que la diffusion de ces techniques-là, qui sont facilement appropriables quand même par les producteurs, ben, se généralise de façon à ce que demain, la Guinée puisse produire du sel solaire en grande majorité. Mais, voilà, c'est pas du jour au lendemain que tout ça se met en place, quoi.
Après quelques heures, l'évaporation joue son rôle. Peu à peu, les cristaux de sel apparaissent et s'accumulent. Une journée est laissée dorer au soleil et le soir, c'est la récolte.
Quelqu'un peut le tenir ici et l'autre par là-bas. Allez-y, faites claquer la bâche. Regarde-moi. C'est comme ça que vous devez faire. Et ensuite, vous pliez la bâche comme ça et vous continuez.
En une journée, avec 20 bâches, on obtient plus de sel qu'en 24 heures de travail harassant ininterrompu autour de deux bacs à feu. Sénégalais a suivi toute l'opération. Il a la foi des nouveaux convertis.
Quand ces bâches sont arrivées ce matin et que j'ai participé à la pose, ma femme m'a demandé de tout laisser tomber, de revenir à la méthode traditionnelle avec le feu, car pour elle, ces bâches ne donneraient jamais de sel. Mais maintenant qu'elle voit ce que ces bâches peuvent produire, c'est elle qui m'encourage. Elle me dit d'en acheter davantage et vite. Désormais, elle est convaincue.
Le sel solaire sur bâche a un autre énorme avantage. Il est meilleur que le sel inigène, né du feu et de la cuisson.
Le sel inigène n'a aucune, même une petite goutte, une petite quantité d'iode. Ça n'existe pas. Par contre, le sel solaire, il y a déjà une certaine quantité d'iode naturelle qui existe. Donc c'est la grande différence.
Voilà. C'est la meilleure qualité.
C'est la meilleure qualité des biens à consommer.
L'année prochaine, si j'ai en bonne santé, je travaille avec le basse. Ça, je sors 40 basses ou 30 basses parce que je suis travailleur normalement.
Plus blanc, plus propre, plus écologique, plus reposant. Le sel sur bâche est la solution pour préserver la mangrove et les hommes qui y vivent.
C'est un investissement sur l'avenir. Cette forêt de mangrove, elle n'est pas qu'à la Guinée. Elle est à la Guinée, bien sûr, c'est elle qui la gère, elle est dans l'écosystème planétaire. Donc je crois que tout le monde l'a compris et c'est pour ça que l'aide au développement est si nécessaire, parce qu'on ne peut pas imaginer continuer à laisser se creuser ce fossé entre le nord et le sud.
Thank you. le château d'eau de l'Afrique. C'est le surnom de la Guinée. Ici, pas de sécheresse comme au Sahel. À Kindia, quand arrive la saison des pluies, en juillet-août, c'est le déluge. Les caniveaux débordent, charrient les déchets et d'énormes problèmes de santé publique. Car l'eau de Kindia peut tuer. La population n'a pas conscience des risques. 80% des Kindianais continuent de s'approvisionner aux sources. En 2012, la Guinée a connu plus de 5000 cas de choléra. 112 personnes sont mortes de cette bactérie véhiculée par l'eau sale et les aliments mal nettoyés. Pour s'attaquer au problème de l'eau, Coopération Atlantique Guinée 44 travaille avec un retraité nantais, Michel Morisson. Cet ancien ingénieur chimiste est un bénévole du développement. Il consacre son temps et son savoir-faire à aider la population de Kindia. Michel Morisson a mis au point un système de désinfection des eaux de source.
Hey, vous m'écoutez un peu là?
Oui.
Avec votre goutte là qui est en place, 45 degrés, vous allez voir, vous allez pouvoir directement aller là-bas.
Quand je suis arrivé à la retraite, on a toujours du travail à faire un peu à la maison. Et je vais vous dire ce que j'ai pensé au bout de 2 mois. Au bout de 2 mois, j'ai dit, mais Morisson, à quoi tu sers à la société? Et c'est là, j'ai pris mon attaché caisse, j'ai fait le tour. Et à un moment, ça y est, je me suis trouvé embarqué à agir. Ma motivation, c'est d'avoir une population qui a accès à l'eau potable. C'est un vrai problème, puisque 1,1 milliard d'individus aujourd'hui sur notre planète Terre n'ont pas accès à l'eau potable. Et 2,2 milliards n'ont pas accès à l'assainissement. Alors c'est un problème grave, parce qu'au moment où je vous parle, il y a déjà beaucoup de morts liées aux maladies hydriques. Ça, c'est quelque chose de très important. Ici, l'espérance de vie est de 47-48 ans. Et la première cause de mortalité est liée aux maladies hydriques.
Le système Morisson, c'est une bidouille astucieuse pour chlorer les eaux de source à moindre coût. Du matériel de récupération, quelques tuyaux de PVC. Une perfusion d'hôpital sert de goutte à goutte pour verser juste ce qu'il faut de chlore dans le réservoir. La maintenance est facile, il suffit de passer toutes les 3 semaines pour renouveler le bidon de chlore et l'eau devient potable en permanence. Le système Morisson a déjà fait ses preuves. 4 des sources parmi les plus fréquentées sont équipées sur la commune de Kindia.
0,20 mg de chlore résiduel par litre, moi ça me satisfait complètement. Ça veut dire qu'avec ces 0,20 mg, ils sont dans des bidons plus ou moins propres, ils peuvent se déplacer à la case et l'eau sera encore potable. Et comme j'ai bien compris, ils font 2 tours d'eau par jour, ça veut dire qu'ils sont toujours en eau potable. Et moi, c'est toute ma satisfaction. Et puis, je vais vous dire, à la vôtre, je vais déguster.
À la santé, à la vôtre.
Elle est bonne. Selon Madame la Présidente, aujourd'hui, je pense qu'elle témoigne d'une réalité. Les gens ici sont en meilleure santé, les diarrhées en particulier. Les maux de ventre, elle m'a même dit les gaz, il n'y a plus. C'est quelque chose de bon.
Avec le système Morisson, l'eau est traitée. Elle devient donc payante. 100 francs guinéens, le bidon de 20 litres. 1 centime d'euro. C'est pas grand-chose, mais en Guinée, c'est un bouleversement des habitudes. Pas toujours facile à faire admettre.
En fait, c'est une question de culture. Chez nous, ici, les gens, ils ont... La mentalité, ils ont cette idée que l'eau, c'est un don de Dieu, quoi. Donc, il ne faut pas payer l'eau. Donc, quiconque fait payer l'eau, non seulement il représente Satan ou... En tout cas, c'est un dictateur, il veut leur faire imposer quelque chose, quoi. Donc, déjà, pour ça, il faut aller pas à pas, leur faire comprendre d'abord que l'eau qu'ils buvaient avant n'était pas potable. Et que maintenant, il y a une source qui a été aménagée avec un dispositif qui permet de chlorer l'eau. Donc, ils ont là accès à une eau de qualité.
L'eau en tant que telle n'est pas payante, c'est un bien public, d'accord. Ça, il y a des débats au niveau international là-dessus. Mais le fait d'amener de l'eau potable le service de produire, de transformer, d'amener l'eau potable à celui qui en a besoin, ça c'est payant.
La source Koukou est la plus fréquentée de Kindia. Elle alimente chaque jour un bassin de population de 20 000 personnes, près de 10% des habitants de la ville. Alors la mise en place du système Morisson cette année a engendré de vives discussions. Beaucoup acceptent mal que ce qui était gratuit hier devienne désormais payant. Surtout qu'en Guinée, le revenu moyen ne dépasse pas 250 000 francs guinéens, soit 25 euros par mois. C'est un agent communal, Émile Touré, qui se charge des tournées d'explications sur le terrain.
La commune n'a jamais imposé le prix du bidon. Non, c'est en dialoguant avec les usagers, en leur donnant vraiment les enjeux qui courent derrière cet aménagement. Nous tombons d'accord. Il n'y a pas de problème.
Même bidon à 100 francs, c'est bon, mais il faudra un peu regarder si vous voulez encore faire un effort, quoi.
Je crois que 100 francs, dans la bourse du Guinéen moyen, quand même, c'est pas trop.
Peut-être pour toi, mais quelqu'un qui a plus de 20 bidons à puiser, ça te fait combien? 20 bidons par 100 francs, 2000 francs.
Multiplie, oui.
2000 francs.
Oui.
Je vous dis qu'il y a des parents ici qui peuvent faire une journée, même deux journées, sans avoir 2000 francs.
Oui.
Vous êtes d'accord avec moi?
Je suis d'accord.
Donc, si vous voulez traiter ça pour la population, faites ça, mais faites un maximum d'efforts pour ne pas que les gens souffrent.
Le paiement de l'eau est une première difficulté. Mais le système Morisson a également ses propres limites. Il n'est pas adapté à toutes les sources de la ville, ni à toutes les formes de pollution. Jonas Pardo, ingénieur des mines fraîchement diplômé, est venu de Nantes à la demande de Guinée 44 pour évaluer le dispositif.
En fait, ici, on est juste en dessous de l'hôpital Fissa. Et ils enfouissent leurs déchets dans le sol. Alors, on retrouve dans l'eau pas mal de produits chimiques qui peuvent pas être traités par le chlore. Il est arrivé que les gens disent oui, on sent un goût de rouille, on sent un goût de médicament, on sent un goût d'alcool. C'est des choses qu'on a entendues.
Et là, même si on mettait du chlore, ça permettrait pas de traiter ce problème.
Non, le chlore, il est efficace pour les pollutions d'origine fécale ou organique. Il agit un peu comme un antibiotique, il s'attaque aux bactéries, pas aux composantes chimiques. L'idéal pour assurer un bon accès de l'eau durable, c'est le traitement préventif. Donc la gestion environnementale des points d'eau. C'est-à-dire contrôler le périmètre autour de la résurgence de l'eau, faire en sorte que la nappe phréatique n'ait aucune pollution. De type fécal, par le déplacement des latrines dans des lieux appropriés, en aval des nappes phréatiques, éviter l'utilisation d'engrais chimiques, tout ce qui est agriculture autour des points d'eau, les hôpitaux, qu'ils n'enfouissent pas leurs déchets juste au-dessus d'une source. Et avec un traitement préventif, on a une eau qui est filtrée naturellement. La terre s'occupe de purifier l'eau de manière naturelle.
Plutôt que de rêver à une solution technique miraculeuse, Coopération Atlantique Guinée 44 va s'atteler à un travail de fond dès l'année prochaine. Protéger les têtes de 15 nouvelles sources et reboiser pour fournir une eau de qualité à 15 000 habitants supplémentaires. Sensibiliser les Kindianais, car payer une eau propre coûtera beaucoup moins cher que des médicaments une fois malade. À 100 km de Kindia, retour en brousse dans la région de Télimélé, où l'UNICEF va construire de nouvelles écoles pour encourager la scolarisation des filles. Dans les villages concernés, les chantiers sont sur le point de démarrer. Elage Mamadou Ba, le représentant local de l'administration scolaire, est venu annoncer la bonne nouvelle.
Asseyez-vous, merci.
Ce vieux sage, 40 ans d'enseignement rural derrière lui, est un vrai showman. Le parfait orateur de brousse.
Si vous voulez qu'une localité prospère, il faut que nos enfants étudient. S'ils étudient, ils pourront devenir ministres, préfets, sous-préfets, gouverneurs, présidents de la République, pourquoi pas. Mais tout cela dépend des études. S'ils étudient, ils pourront choisir leur avenir, et cela vous aidera. Ce projet, ce n'est pas pour vous donner de l'argent, du riz ou des moutons, c'est pour scolariser vos enfants, pour qu'ils apprennent. Si les enfants vont à l'école, notre village sortira des ténèbres. S'ils vont à l'école, notre localité sera connue. C'est tout Télimélé qui sera prospère. C'est pour cela que les étrangers vont tout faire pour qu'une nouvelle école soit construite ici.
Les populations veulent bien scolariser. Elles ont le goût de l'école. Elles ont envie d'envoyer leurs enfants. Parce qu'elles ont compris que ces populations, que seules par le biais de l'éducation, on peut réussir. On peut libérer un pays avec un peuple analphabète, mais on ne peut pas développer un pays avec un peuple analphabète.
Dans le village de Mabé, le chantier est bien parti. La nouvelle école commence déjà à sortir de terre. Comme pour toutes les écoles construites par l'UNICEF dans la région, le chantier est participatif. Les parents d'élèves contribuent aux travaux, chacun à la hauteur de ses moyens ou de ses compétences. Le menuisier local fait la découpe, un maçon du coin dirige le gros œuvre. En impliquant les habitants, on accélère la prise de conscience en matière d'éducation. Julien Arnès, le représentant de l'UNICEF en Guinée, et Kadiatou Diallo, son adjointe, sont venus sur place inspecter l'avancée des travaux.
Quand est-ce que vous avez coulé le béton ?
On a coulé ça hier.
Hein ?
Hier.
Et il faut le laisser en coffrage combien de temps ?
Comme c'est la saison pluvieuse, on peut laisser pendant une semaine comme ça.
Bon, je ne suis pas un expert, mais j'ai fait un peu de construction et le chantier me semble bien organisé et la qualité est là. La mobilisation sociale est correcte. Il faut dire que je suis un peu inquiet avec l'arrivée des pluies, surtout ce qui va être, est-ce que ça va avoir un impact sur les délais et la qualité, mais je leur fais confiance.
Qu'est-ce que vous avez fait avant de vous occuper de l'UNICEF en Afrique ?
Qu'est-ce que, avant de...
D'être membre de l'UNICEF, de représentant de l'UNICEF, vous avez fait quoi avant?
Bon, avant la Guinée, j'étais à Goma, en République démocratique du Congo. Avant ça, je travaillais un peu avec l'UNICEF au Liban et en Indonésie après le tsunami. Avant ça, j'étais dans le business et avant ça, dans l'armée.
L'armée, le business, et après on s'occupe de l'enfance dans les pays en voie de développement, c'est un parcours un peu étonnant.
Bon, c'est une notion de service du peuple. Je suis venu à l'UNICEF pour continuer dans cet esprit. Je trouve ce que je cherchais.
L'école doit être finie 4 mois plus tard pour la rentrée scolaire. À Mabé, le pari est en passe d'être tenu et le cahier des charges respecté. Notamment pour la construction des latrines séparées pour les filles, un élément essentiel pour la réussite du projet.
Là, c'est pour les filles. Les garçons, c'est de l'autre côté.
D'accord, ouais. Et il y a tout. La question des latrines, ça peut être décisif pour certaines personnes d'aller à l'école ou pas.
C'est très décisif, parce que surtout pour les filles, parce qu'il y a des filles qui peuvent s'absenter parce que tout simplement, elles se sentent exposées d'utiliser les mêmes toilettes ou d'aller au même endroit que les garçons.
Le projet de l'UNICEF ne vise pas seulement à construire des bâtiments. L'ambition est aussi de réformer en profondeur la pédagogie, remettre l'enfant au cœur du système éducatif.
Ok, moi c'est Julien. Salut. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Et toi, comment tu t'appelles ?
C'est la petite sœur de Zéla.
Vous êtes tous à l'école ?
Non, c'est un peu, mais pas, c'est ça.
D'accord, donc toi, t'es pas à l'école. Okay.
Ok, les enfants, mais écoute, bonne continuation.
Parce qu'en Guinée, on en est encore au bonnet d'âne version brousse.
Qu'est-ce que c'est ça?
Bon, c'est la dentition de Machal du bœuf. C'est tout juste pour dire à l'enfant qu'en classe, on parle français. Si tu parles la langue du terroir, la langue nationale en classe, on te fait porter ça et les enfants disent alors tu
te moques
de toi. Donc tu ne répéteras plus la langue nationale en classe, mais tu parles français. Même si tu es un mauvais français, tu le parleras quand même en classe. Jusqu'à ce que tu arrives à parler un français limpide.
Et qu'est-ce que vous allez changer, vous?
Bon, la pédagogie. Pour la caractériser, c'est un peu comme la pédagogie française, mais de 3-4 décennies. C'est une pédagogie qui est très axée sur l'enseignant, au centre de la classe, qui a la connaissance, avec les étudiants plus bas qui doivent écouter et répéter. Ce qu'on essaye de changer, c'est d'aller vers la pédagogie active. C'est-à-dire, c'est une pédagogie où on considère que l'enfant est moteur de son propre éducation et donc il faut l'aider à être curieux, il faut l'aider à poser des questions. Mais c'est difficile parce que, bon, on est en train de parler avec une génération d'éducateurs qui ont vécu ça autrement et qui ne voient pas nécessairement l'avantage ou peut même voir l'inconvénient d'une telle approche.
Une nouvelle pédagogie pour de nouvelles écoles. D'ici 2015, l'UNICEF prévoit la construction de 18 établissements scolaires, soit l'ouverture de 54 classes équipées en matériel pédagogique. L'objectif, parvenir à scolariser 80% des enfants de la région de Télimélé contre 38% seulement à l'heure actuelle. C'est bientôt le démarrage de la nouvelle saison de sel à Yamponi, le site où la mangrove a été dévastée par la coupe de bois. Dix mois après notre dernier passage, nous revenons sur place pour voir si l'utilisation des bâches progresse sur la zone. Cette fois-ci, Alain Courtel, le paludier de Guérande, fondateur d'Universel et de La Partie. Cela fait près de 7 ans qu'il n'est pas revenu en Guinée. Il est même un peu désorienté en arrivant. Mais il retrouve Toupou et Ali, ses vieux complices de l'ONG locale, la Dame.
Bonjour.
Ça va?
Très bien, merci.
Ça va?
Et vous?
Oui, ça va.
Vous vous défendez ici à Yamponi, là?
Oui.
Il y avait longtemps que je n'avais pas refait du terrain, retrouvé ces visages, ces hommes et ces femmes qui se bagarrent au quotidien pour survivre. Et c'est eux mon carburant. C'est eux qui me redonnent la patate pour aller convaincre que l'aide au développement est nécessaire et surtout sur des projets aussi concrets, aussi palpables que les nôtres. Donc voilà, de temps en temps, il faut que je me replonge au cœur de ce qui fait ma motivation.
Aujourd'hui à Yamponi, Alain est venu assister à la toute première vente de bâches plastiques organisée dans le village. Un an après leur formation au sel solaire, les paysans du coin peuvent enfin s'équiper pour attaquer la saison de sel qui démarre dans quelques jours. Les bâches sont cédées à prix coûtant. 40 000 francs guinéens pièce, un peu moins de 4 euros.
À qui je paye?
À lui là-bas.
C'est combien déjà?
40 000.
Les voici, recompte bien.
40 000, c'est bon.
Il n'y aura que 6 acheteurs au total, alors que Yamponi compte 600 producteurs de sel en pleine saison. Succès mitigé pour la vente. En fait, le prix même minime semble poser problème. Beaucoup de bâches n'ont pas trouvé preneur. Alors certains essayent d'obtenir les bâches gratuitement, des bâches cadeaux. Mais le paludier breton ne veut pas rentrer dans cette logique.
Au bout de 4 jours de production, quand ça marche bien, tu peux vendre pour plus de 40 000 francs de sel.
Donc voilà, une bâche, en 4 jours, tu l'as amortie, tu peux la rembourser. Voilà, donc c'est pour ça que... Non ?
C'est bien ça.
Ah, je me trompe.
Ils savent.
Hé, hey, nous, moi je suis producteur de sel comme toi. Donc on peut pas faire n'importe quoi. Hein, même si mon envie, c'était de distribuer comme ça vite. Non, non, il faut être sérieux. Tout a un prix ici. Hein, il n'y a pas de, cadeau forcément.
On ne peut pas faire bâche cadeau parce que c'est un système qui nécessite l'accompagnement en permanence. Quoi. Donc après, et puis le producteur qui au fil de cette bâche, bon, n'est pas forcément bien utilisé derrière ou utilisé à d'autres fins, pas forcément pour faire du sel. Donc, et puis, c'est pas une solution pérenne. Je pense qu'il y a moyen, avec cette technique-là, de pouvoir dégager des revenus qui leur permettront demain de pouvoir investir dans des cristallisoires en bâche. Comme tous les exploitants, comme tous les agriculteurs, il faudrait... On ne peut pas se substituer à l'économie agricole en distribuant des bâches gratuitement. Ça n'a pas de sens pour nous.
Une des solutions pour faire baisser le prix des bâches, que les paysans s'organisent et se regroupent. Démonstration sur un autre lieu de production de sel. Barifania, une localité initiée au solaire il y a près de 10 ans. Depuis, le site s'est entièrement converti. Les producteurs du coin sont autonomes et se passent de l'appui des ONG. Dans ce village pilote, le débit de sel atteint des niveaux industriels. Ici, grâce aux bâches, c'est toute une communauté qui a repris le contrôle de son destin. 10 ans après avoir lancé les bâches à Barifania, Alain Courtel revient mesurer le chemin parcouru par ses amis guinéens comme Soriba, un petit paysan devenu aujourd'hui un entrepreneur de sel solaire. Il a désormais 3 femmes et 10 enfants qui vont tous à l'école.
Salut, mon frère. Comment ça va?
Bien. Ouais. Bon fouille.
Avec ses bâches, il produit presque 10 tonnes de sel par an, 2 fois plus qu'avant, au temps révolu des bacs à cuisson.
Donc, comment vous organisez ici à Barifania pour avoir les bâches? Parce que tu disais, il y a un groupement, il y a un achat groupé, chacun se débrouille, comment ça se passe?
Cette année, nous avons cotisé, tout le monde, tous ceux qui veulent travailler sur les bâches, tout le monde a cotisé l'argent. Un de nos collègues a fait un déplacement, on a pris ses frais de transport en charge et il est descendu chez le fournisseur pour payer des bâches et nous envoyer.
Tu veux me montrer ton tanker là?
Le tanker massabe. Et arawal makianare.
Comme la plupart de ses collègues, ce producteur a positionné ses filtres en batterie. Une innovation pour recueillir plus de saumure afin d'alimenter plus de bâches.
Qu'est-ce que tu penses de son installation là?
Ah ben c'est parfait, hein, c'est génial. Nous on n'avait même pas pensé qu'on pouvait mettre 4 tankers en batterie. Donc c'est que bon ben eux ils ont... Non seulement ils se sont réappropriés, mais ils ont inventé. Félicitations.
Des agriculteurs prêts à défendre leur métier, leurs revenus et à sauvegarder leur environnement, comme les paludiers français à Guérande. L'exemple d'une solidarité réussie entre paysans du Nord et du Sud. Pour les années qui viennent, l'objectif d'Universel est de faire reculer le sel sur feu afin de régénérer la mangrove. En créant un réseau de distribution de bâches pour faciliter l'approvisionnement des producteurs et en mettant en place un système de microcrédit paysan pour encourager l'achat des bâches. En Guinée, la santé maternelle et infantile est une urgence absolue. Une maman guinéenne a 60 fois plus de chances de décéder au cours de son accouchement qu'une femme française. Le taux de mortalité infantile est 25 fois plus élevé qu'en France. À Kindia, un homme a décidé de s'attaquer à ces statistiques implacables. Le docteur Claude Moncorgé est un ancien président de Médecins du Monde. Sa stratégie, décentraliser la santé au plus près des habitants. Ce jour-là, il supervise une formation en direction des agents communautaires. Des relais essentiels pour rapprocher les structures de soins de la population.
Qu'est-ce qu'ils apprennent au cours de ces formations
aujourd'hui, là aujourd'hui, ce sont 2 jours de formation sur la question du VIH. Voilà. Pour sensibiliser les communautés, les populations. Donc ce sont des agents communautaires qui sont rattachés à chacun des centres de santé que nous allons soutenir dans le programme. C'est vraiment du travail de sensibilisation. Donc ils apprennent, enfin, ils revoient les thèmes sur lesquels ils sont censés pouvoir parler, transmettre un message.
Une vingtaine d'agents communautaires, formés et diplômés, pour promouvoir la santé au cœur des quartiers de Kindia et des villages alentours. Claude Moncorgé dirige l'OPALS, l'Organisation panafricaine de lutte pour la santé. À ses côtés, Goya Galdouros, la représentante de l'association en Guinée. L'OPALS, une petite ONG spécialisée dans l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Rendez-vous à l'hôpital de Kindia, un lieu que Claude Moncorgé connaît bien. Avec Médecins du Monde, il y a supervisé la réhabilitation de la maternité. 15 ans plus tard, le French Doctor revient sur les lieux.
Là, ici, il y a un beau bébé, hein. Très bien. Et donc là, il y a une complication qui est laquelle, celle-là, pour elle ? Vous savez pas ?
Celle-ci.
Elle est venue pour le pansement.
Voilà, très bien. Tout va bien, tout va bien pour
tout
elle.
Tout va bien.
D'accord. Bon, c'est bien. Hein. C'est bien quand ça se passe bien comme ça. Hein. Formidable. Hein. J'ai été sensibilisé à la médecine en Afrique lorsque j'avais 25 ans à peu près et que j'étais en cours au début, juste avant mon internat. Et je pense que ça n'a, même si je m'en suis pas rendu compte à l'époque, ça n'a pas été étranger à cette ouverture que m'a donné ce séjour de quelques mois en Afrique. Et puis ensuite, la période 94-95, au moment du Rwanda, m'a plongé totalement dans ces questions-là, puisque j'y ai passé beaucoup de temps. Et puis après, j'ai eu du mal à réintégrer une activité de praticien hospitalier qui certes est très noble et merveilleusement enrichissante, mais que j'ai vécue à travers cette expérience avant comme un petit peu étouffante.
Bonjour.
Ça va, merci.
Elle est là, son bébé. C'est une césarienne. Et opérée comme on fait, moi. Bon, bon.
Quoi? Ah, d'accord. Bon.
Donc, elle est restée longtemps à la maison, en travail. Donc, elle est venue avec...
Travail prolongé, finalement, le bébé était déjà mort.
On sait que la mortalité néonatale, dans des pays comme la Guinée ou les autres, sont anormalement élevées. Et c'est en grande partie parce que les femmes ou viennent pas du tout, ont pas du tout accès à des structures de soins pendant leur grossesse, donc elles accouchent chez elles, ou viennent trop tard. Aujourd'hui, il y a moins de 50% des femmes enceintes qui viennent consulter une structure de soins pendant la grossesse. Donc on voudrait arriver à plus de 80%.
Pour cela, l'ONG française va concentrer son action à l'extérieur de l'hôpital, dans les centres de santé. Des dispensaires disséminés à la périphérie de Kindia, comme celui de Wandi. Ce petit centre prend en charge 20% de la population de la ville. 56 000 visites par an dans des conditions précaires.
Ici, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'elle a tout ce qu'il faut pour travailler?
Ah, nécessaire les billes, il y a rien.
les matériels, tout n'est pas au complet. Il n'y a pas de pots, il n'y a pas de plateaux, il n'y a pas de boîtes.
Ah. Donc c'est des conditions.
Faut régler, tout.
On fait de tout ici. Les accouchements, mais aussi les premiers soins, les vaccinations et le suivi des grossesses.
9 mois, 37 cm. La femme a 9 mois de grossesse. J'essaie de palper pour voir la présentation. C'est la présentation céphalique. C'est la présentation céphalique. L'enfant se présente par la tête. Il y a le BDC, il y a le bruit du cœur fœtal. L'enfant est vivant.
Ça, c'est votre...
C'est votre obstétrique.
C'est pour faire... C'est
venez
votre,
voir.
C'est, c'est votre échographie.
Ah, c'est votre notre échographie. Vous pouvez voir. Ça fait le tic-tac d'une montre.
Le docteur Diallo est le chef du centre de Gondi depuis 5 ans. État des lieux.
Bon, je peux voir la salle.
Ouais.
C'est une salle tout juste pour faire les soins. On a raccommodé. Tout juste.
Ah là, c'est très vétuste, là, quand même.
Très vétuste. C'est nous qui avons cherché des bois. On a vu des menuisiers. Ils ont tapé, cloué. Faire.
On peut vraiment fournir des soins dans ces conditions, c'est
vraiment difficile.
Ce microscope-là, il date de quand?
Ah, moi, je sais pas, hein. Très longtemps.
Il était là avant vous?
Avant moi. Oui.
C'est la débrouille, quoi.
Voilà, on s'est débrouillé.
Bon, bah, continuons. Ça, c'est vos lames, là, c'est ça, dans la ciel bleu, là?
Oui, oui.
C'est même cassé, certaines sont cassées.
Voilà.
On a beaucoup utilisé, on doit...
Des lames même cassées.
La Guinée fait partie des pays les plus en retard, pour des raisons politiques. Vous savez qu'il y a eu deux fois deux dictateurs en 50 ans, qui ont fait, chacun a eu 25 ans de mandat. Que c'est un pays qui a beaucoup de ressources, mais qui a été géré... en tout cas, la santé n'était pas une priorité. Donc, il est un peu logique, enfin, il est dans la logique d'organisation telle que la nôtre, d'aller vers les pays qui sont les moins bien lotis et où il y a le moins d'aide extérieure.
Le centre de Wondi fait partie des priorités de l'OPALS. L'ONG finance les travaux de réhabilitation du dispensaire.
On espère quand ça va finir, ça va apporter un plus à l'activité.
Bah, écoutez, ce qu'on veut, c'est que dans chaque centre de santé, il y a un laboratoire qui soit à peu près équipé. Hein. D'abord réhabilité et ensuite, on fournira les équipements de base. Si on a vu un microscope pour chaque laboratoire. Un appareil pour mesurer l'hémoglobine, pour chercher l'hémoglobine. Si les femmes enceintes ne sont pas anémiques ou pas. La glycémie aussi, le sucre.
Pour réussir sa mission, l'OPAL s'intervient aussi à l'extérieur de la ville, dans les postes avancés, en brousse. À une heure de route de la ville, la localité de Ronia Khori.
Voilà. Sous le manguier.
Ce jour-là, c'est la stratégie avancée, une campagne de vaccination pour tous les enfants du village.
On a vu que le poste était assez éloigné, le village encore plus éloigné. Les centres de santé, ils couvrent des zones immenses, en fait.
Ils couvrent des zones immenses. Et encore, enfin, le poste de santé qu'on visite là, il est à 25 km de Kindia. Il y en a d'autres à 70 km. Donc le but, toute la démarche, c'est de couvrir au maximum et d'aller au maximum vers les populations. Nous comprenons bien que ces familles-là ne vont pas aller jusqu'à Kindia. Elles ne peuvent pas faire 25 km. Donc le but, c'est ce qu'on appelle la stratégie avancée, c'est d'aller vers les populations et vers les communautés qui sont, par ailleurs, tout à fait éveillées aux besoins si on les informe.
Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter, vous, sur le
ce genre de programme?
Ben nous, ce qu'on veut apporter, c'est qu'à partir de ces campagnes-là, au-delà des messages de vaccination nécessaires, ces populations-là soient bien conscientes qu'une femme enceinte, c'est mieux qu'elle aille au poste de santé pour être sûre que tout va bien. Les enfants en bas âge, s'ils ont une diarrhée qui dure un petit peu, s'ils déshydratent, s'ils ont du mal à respirer, ils aillent vite au centre de santé. Et donc tout ça pour améliorer, au-delà de la vaccination, la santé maternelle, la santé infantile.
Les stratégies avancées sont souvent l'unique contact entre les médecins et la population qui n'a pas de moyens de transport. Mais le territoire à couvrir est tellement vaste qu'il faudra 2 ou 3 ans avant de revoir un même village. Alors il faut profiter de l'occasion pour repérer les pathologies à risque.
Une hernie ombilicale tout à fait banale et qui doit être opérée. Parce que si elle est un jour étranglée, à ce moment-là, c'est très dangereux. Et c'est ça devient une urgence chirurgicale. Et une urgence chirurgicale ici, c'est très compliqué à gérer. Donc, on va essayer de voir avec le directeur de l'hôpital qu'on connaît,
bon, docteur,
quels seraient les moyens de faire opérer la petite avec le moins de coûts possible.
Une semaine plus tard, la petite Kadiatou est prise en charge à l'hôpital régional de Kindia. L'opération s'est très bien passée. Le cœur de métier de l'OPALS, l'ONG de Claude Moncorgé, c'est la lutte contre le sida. En Guinée, près de 10 000 gamins de moins de 14 ans sont touchés par le virus. Le pays compte 60 000 orphelins du sida. Pourtant, les solutions existent. En France, la transmission de la mère à l'enfant du VIH a quasiment disparu.
Si on ne fait rien, une femme enceinte séropositive va transmettre le virus à son enfant dans environ 40% des cas, pendant la grossesse, pendant l'accouchement et pendant l'allaitement. Et que si on les traite correctement, comme on fait dans nos pays du Nord, ce taux de transmission est quasiment annulé. Donc l'impact est très très fort en termes de santé publique, avec des moyens sérieux, mais pas énorme, on peut annuler, éliminer la transmission de la mère à l'enfant, du VIH.
Soigner les mamans séropositives avec des antirétroviraux pour sauver les bébés et enrayer l'épidémie de sida. Un petit miracle qui a du mal à démarrer en Guinée. À Kindia, le centre de santé de Mankepa, en centre-ville, est le seul à pratiquer le dépistage du sida chez les femmes enceintes et à leur offrir des traitements pour prévenir la transmission de la mère à l'enfant.
Est-ce qu'elle est optimiste pour son enfant par rapport à la maladie, au VIH, justement ?
Au début, j'étais très inquiète. Mais ici, je suis très bien suivie. On me donne des médicaments et on s'occupe bien de moi. Donc là, ça va beaucoup mieux. Je suis très optimiste.
Est-ce qu'elle a peur d'être rejetée par son village si quelqu'un la prenait la main ?
Oui, j'ai peur. Une autre femme de mon village a été répudiée pour ça. Chez nous, si tu es séropositive, tu es mise à l'écart. Tu es une paria. Même ta propre famille ne veut plus t'approcher.
La stigmatisation en Afrique, c'est la mort sociale. À Kindia, à peine 15% des femmes testées positives ont le courage de revenir au centre de santé pour être suivies. L'immense majorité préfère se faire oublier. C'est pour ces femmes et leurs enfants que l'OPALS se bat.
Oui, ils acceptent le dépistage parce qu'au fond, pourquoi ? Parce qu'ils n'osent pas dire non. Ils sont face à une autorité médicale qui dit « il faut vous faire dépister ». Mais après, ils ne viennent même pas chercher les résultats, ils disparaissent. Donc tout le travail dans une ville pourtant qui n'est pas la dernière ville du pays et qui n'est pas au fin fond, la Brousse, qui est simplement à 1h30, 2h de Conakry, c'est de faire en sorte de faire comprendre que cette maladie, c'est une maladie qu'on peut traiter, qui peut permettre d'être enceinte, qui peut permettre d'avoir des enfants, qui peut permettre d'avoir une vie normale. Donc il y a un énorme travail en amont à faire au niveau des communautés.
D'ici 2015, l'OPALS va rénover, équiper et former le personnel de 14 centres de santé sur Kindia et de 62 postes avancés en brousse. Soit un meilleur accès aux soins pour 60 000 femmes en âge de procréer. L'objectif, éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Voici venu le moment d'un ultime déplacement pour cette année 2012. Direction l'intérieur des terres, vers la préfecture de Télimélé, où l'UNICEF mène son programme de construction d'écoles. Dans la localité de Mabé, le 3 octobre, c'était la fin des vacances, le début d'une nouvelle histoire pour les enfants du village. Fini aussi les cours dans l'ancienne école en ruine, parce qu'ici, le pari a été tenu. La rentrée des classes a lieu dans un bâtiment flambant neuf. Et ça change tout. Pour la petite Aïssatou notamment, vous vous souvenez ? L'an dernier, elle ne fréquentait pas les cours, faute de moyens. Aujourd'hui, c'est sa première rentrée. Avec un kit fourni par l'UNICEF, pour elle et tous ses camarades de classe. L'école a été livrée juste à temps pour la rentrée. Le mobilier est fraîchement verni et les artisans terminent les finitions pendant les cours. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'à Mabé, désormais, le tableau noir est vraiment noir. Et avec sa taille XXL, tout le monde peut suivre la leçon sans problème. Ici, maintenant, tous les enfants ont droit à une scolarité normale, même quand ils sont issus d'une famille démunie, comme Aïssatou, qui doit encore apprendre à surmonter sa timidité après toutes ces années sans cours.
Elle te plaît, la nouvelle école ?
Oui.
Pourquoi tu es contente ? Explique-nous un peu.
Je suis contente pour plein de choses.
Plein de choses ? Comme quoi ?
Eh bien, en venant ici, je vais pouvoir être utile à moi-même.
Julien Arnès, le patron de l'UNICEF en Guinée, est venu s'assurer que la construction est bien conforme au cahier des charges.
C'est quoi comme bois ?
Acajou.
Acajou, ah ok.
Et notamment les latrines séparées pour les filles et les garçons. Un aspect essentiel pour encourager les jeunes filles à fréquenter les cours.
Et est-ce qu'on va marquer filles et garçons ?
Oui, on va marquer.
Comment ça ? Avec quel est le...
On va marquer par là. C'est la fille, de l'autre côté, c'est les garçons.
D'accord. Ok, mais avec des dessins ou...
À quelques détails près, tout est en ordre. Le chantier de Mabé a tenu ses promesses. Les représentants de l'UNICEF ont tenu à rencontrer Madame Barry, la maman d'Aïssatou, pour comprendre ce qui l'avait convaincue d'envoyer ses enfants en cours. Elle ne gagne pas plus d'argent qu'avant. Mais au village, le nouveau bâtiment semble avoir déjà changé les consciences.
Maintenant, c'est qui va à l'école ?
C'est Aïssatou et puis son petit frère, Mamadou Ali.
Qui a pris cette décision et quand ?
Ce sont mes deux filles aînées, Kadiatou et Binta, qui m'ont beaucoup encouragée. Elles m'ont demandé de laisser les petits fréquenter l'école et m'ont affirmé qu'elles allaient m'aider pour compenser tous les frais qui restent à notre charge.
Moi et ma sœur Binta, on s'est mises au travail. On essaie de mettre un peu de sous de côté. On se cotise pour soutenir nos petits frères et sœurs et les envoyer en cours. Nous, les grandes, nous n'avons pas eu la chance d'aller à l'école. Moi, je ne suis pas instruite. Je ne souhaite pas que les petits subissent le même sort, qu'ils soient ignorants eux aussi.
J'étais très impressionnée de voir les deux filles aînées qui étaient prêtes à mettre leur temps et leur énergie là-dedans. Et la décision, ça vient, bon, ça vaut le coup d'investir, on va se donner. Donc, ce que je retire de ça, c'est qu'il faut qu'on travaille sur la qualité. Parce que si on fait un beau bâtiment, mais que les enfants, ils apprennent, hein, bon, l'investissement de Kadiatou et Binta, ça n'aurait pas servi.
Mais ce qui a marché à Mabé n'a pas forcément réussi partout. Direction Bappé, l'autre village qui attendait sa nouvelle école. Ici aussi, c'est la rentrée, mais le chantier est au point mort. Un problème de terrain. Les premières fondations ont été abandonnées pour un autre site un peu plus bas. La fabrication des briques démarre tout juste. On est loin du compte. Du coup, les élèves débutent l'année dans l'ancienne école, dans des conditions encore plus précaires qu'avant. Car beaucoup de parents attendaient le nouveau bâtiment et ont inscrit leurs enfants en masse. Heureusement, l'UNICEF a prévu suffisamment de fournitures et la maîtresse maintient le moral des troupes.
Je suis sûre que dans 2 mois, le bâtiment sera fini. J'en suis sûre et certaine de ça. On a vu les ciments, il y a les fers, donc les gravés, donc le chantier démarre.
Bilgisa, qui espérait un nouveau professeur pour le cours élémentaire, devra donc encore patienter.
Tu as vu la construction de l'école, mais elle n'est pas finie. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un petit peu décevant quand même de...
Moi, je croyais qu'on allait faire la rentrée dans le nouveau bâtiment. Mais apparemment, ça ne sera pas le cas. Je ne connais pas les raisons du retard, mais j'espère que ça ne durera pas trop longtemps.
En fait, le site de Bappé cumule les difficultés. Ici, pas de sable et très peu d'eau. Pas facile de tenir les délais du chantier dans de telles conditions.
Bon, sur les travaux, il y a une partie le problème d'eau, mais en partie, les techniciens n'étaient pas... Bon, ils ont construit l'école là-bas en pente, qui n'était peut-être pas une bonne solution technique. Donc après, la flexion, on a changé. Maintenant, c'est là-bas, le lieu est mieux. Mais bon, ça a nécessité de recreuser pour faire les fondations, qui nous a retardés.
Les partenaires de l'UNICEF se sont engagés à terminer l'école d'ici la fin décembre, en faisant venir du matériel et des artisans depuis Kindia, la grande ville, pour accélérer les choses. Nous serons là pour nous assurer du respect de cette nouvelle échéance et vous en rendre compte. Car nous n'en sommes qu'au début de l'histoire. Accompagnés pendant les 4 ans qui viennent, avec votre soutien au fonds Kindia Plus, l'effort d'éducation en faveur des petites filles. Un défi à relever ensemble, pour aider la population de Kindia et sa région à trouver son chemin vers le développement.
Kelina miri mani weyala Kelina kasi